Les enfants rejoignent leur groupe d'école du dimanche. Nous disons merci encore à Eric pour cette première partie. Nous remercions encore les musiciens, spécialement pour l'accompagnement musical. Et nous commençons une nouvelle petite série. Une semaine à l'avance, on va déjà se mettre en route vers Noël avec une série sur Bethléem. Alors quand on pense à Bethléem, on pense à Noël bien sûr, mais on pense qu'il n'y a que ça. Mais non, il y a plusieurs fois Bethléem dans tout l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui, nous allons remonter en Genèse 35, versets 16 à 20. Alors je signale que l'ensemble de ce que j'avais préparé là était déjà préparé avant le début de la semaine et avant certains événements, donc il n'y a pas de relation avec aucun événement intervenu cette semaine. Alors c'est Bethléem, c'est la naissance de Benjamin, c'est la mort de Rachel, c'est un événement important dans la vie de Jacob. Ça intervient donc dans la fin du cycle de Jacob. Et s'il fallait le prouver, on voit que Bethléem est profondément enraciné dans l'histoire d'Israël, puisque quelque chose d'important est arrivé dans la vie de Jacob autour de Bethléem, déjà, donc au temps des patriarches, au début de l'histoire du peuple de Dieu. Et donc déjà dans le livre de la Genèse, on parle de Bethléem. Donc je lis, Genèse 31, 16, 20. Il restait un bout de chemin pour arriver à Éphrata. Quand Rachel accoucha, ses couches furent pénibles. Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle nomma son fils Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, Benjamin, fils de ma droite. Et Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est Bethléem. Seigneur, ouvre-nous le Saint-Livre pour que nous puissions te voir, toi et ta gloire de roi aujourd'hui. Amen. Donc, la perte d'un être cher est toujours un drame, est toujours un terrible sujet de chagrin. Certains se risquent à classifier, comme si on pouvait le faire, à classifier le deuil en fonction de la personne disparue. Alors il y a un mari, une épouse, un parent, un enfant, bien sûr, etc. Ou bien on classifie en fonction de l'âge du défunt, comme si ça pouvait changer quelque chose. En tout cas, le chagrin, c'est le chagrin. Et il ne s'arrête jamais à ce genre de classification, à ce genre de considération. Alors notre pèlerinage ici-bas, notre cheminement ici-bas est jalonné de pertes de toutes sortes. Tous ceux qui ont vécu un peu le savent. Chacun se trouve à un moment ou à un autre confronté à un deuil. Ou alors chacun devra faire son deuil d'autre chose, de bien, par exemple, auquel il tenait, soit par cambriolage, soit par un cataclysme ou un accident, ou d'une perte, ou bien chacun devra un jour ou l'autre aussi faire son deuil d'un lieu où il demeurait, du séjour où il s'était attaché. On doit faire le deuil aussi de relations parfois, de relations qui étaient liées à tout ça, avec un nouveau poste, avec un déménagement. Et dans notre vie d'église, nous faisons le deuil aussi de personnes qui doivent partir en retraite, de personnes qui doivent déménager, ou toutes sortes de choses. En tout cas, nous vivons ce genre de choses. Quelqu'un peut aussi être licencié et d'une occupation qui lui convenait, qui lui permettait de nourrir sa famille. Et on sait bien que la mise à la retraite peut être une sorte de deuil aussi éprouvant, et très éprouvant pour certains. Notre santé aussi peut se dégrader. Nos facultés physiques, intellectuelles diminuent. Il faut faire deuil de certaines choses. En tout cas, tous les hommes, pas seulement les chrétiens, ont à faire face à de telles pertes. Alors, deux questions qu'on va essayer de voir. Comment réagissons-nous en tant que chrétiens à ces différentes pertes? Et deuxièmement, comment pouvons-nous les assumer, les surmonter? C'est surtout ce second point que nous allons voir. Alors tout d'abord, comment réagissons-nous en tant que chrétiens face à ces différentes pertes? Alors tout d'abord, c'est la colère. Et on voit bien la colère dans ce passage, dans notre texte. Rachel a eu toute sa vie une conduite essentiellement, on va dire, dictée par l'orgueil, par le calcul. Et cela l'a maintenue dans une certaine obscurité spirituelle, pour un long temps en tout cas. Elle ne s'est pas facilement laissée transformer par l'amour de Dieu. Et il semble qu'elle ait été finalement victime de son désir forcené d'avoir des enfants à elle. Alors elle a déjà Joseph, mais sa rivale Léa a plus d'enfants. Et donc elle veut à tout prix avoir un enfant. Et donc elle meurt à Bethléem en mettant au monde un fils, c'est vrai. Mais elle va l'appeler Ben-Oni, fils de ma douleur. Donc sa réaction, c'est la colère. Me faire ça à moi, au moment où j'en avais le plus besoin. C'est pas juste, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a le droit de se mettre en colère. Mais pas, on se met en colère en tant que chrétien, non pas contre Dieu, mais on se met en colère devant la mort. On se met en colère contre le mal dans le monde qui a entraîné la mort et tout son cortège. On se met en colère contre cette situation dans laquelle nous vivons et parce que nous sommes solidaires avec toute l'humanité. Oui, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, Romains 5:12. Oui, il y a une légitime colère là. Et puis il y a la tristesse de ses douleurs d'enfantement, de sa mort, submerger sa mort prochaine, submerger Rachel. Alors elle attendait ce fils, on l'a dit, depuis des années, mais elle était incapable à présent de s'en réjouir, on peut la comprendre. Les élans de son ventre, d'une formidable intensité, lui font pressentir le pire. Alors, c'est bon de rappeler que la tristesse est liée aussi à la nature humaine. Devant une perte comme celle d'un être cher, nous avons le droit de pleurer. Nous avons le droit de répandre notre tristesse devant Dieu. Et c'est bon de le faire aussi dans les cérémonies d'obsèques. Et il y a une place, bien sûr, pour proclamer la résurrection, pour proclamer notre espérance, mais aussi pour faire éclater notre tristesse, pour la remettre à Dieu. Et donc, cependant, nous ne sommes pas obligés. Nous pouvons répandre notre tristesse devant Dieu, nous ne sommes pas obligés de nous abandonner à la tristesse, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4:13. Et donc, le chrétien accepte la part de souffrance liée à la condition humaine. Il ne cherche pas à esquiver la tristesse. Et il a d'autres armes pour lutter contre la saturation de sentiments négatifs qui peuvent le submerger. Comme le chante ce bon négro spirituel qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, il y a du baume en Galade. Ça m'a toujours fait rêver parce que ça reprend bien une expression de l'Ancien Testament, une expression biblique. Il y a du baume en Galade pour guérir mes blessures, dit ce négro spirituel. Et donc, ça reprend Jérémie 8, 22. Et c'est vrai. Il y a du baume aujourd'hui auprès de Dieu. Il y a de la consolation pour cicatriser les plaies causées par une perte. Et on peut citer à ce propos le psaume 94, qui paraît un peu sombre quand on le lit, verset 19. « Quand mes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Alors, nous arrivons aux consolations. Comment pouvons-nous assumer nos pertes? Comment pouvons-nous les surmonter? Donc, il y a d'abord les consolations qu'on reçoit de Dieu. Et donc, son père, il est dit, l'appela Benjamin, Benjamin, fils de ma droite. Son père, au milieu de sa douleur, voit la miséricorde de Dieu manifestée dans la naissance de cet enfant tant attendu. Et donc la foi de Jacob triomphe en se confiant dans la fidélité de Dieu. Et parce qu'il est sûr de sa fidélité, il y a une consolation que lui offre sa foi. Et puis il y a la certitude que rien ne nous arrive en dehors du plan de Dieu. Dieu règne, on l'a dit. on l'a dit abondamment dans la première partie. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique, pour ceux qui suivent ce genre de choses. Et on met l'accent sur le règne de Dieu. Et ça convient tout à fait. Dieu règne. On a besoin de se rappeler ce genre de choses. Rien n'arrive sans sa volonté. Et donc, l'heure de Dieu sonne juste, en dépit des aléas humains, en dépit des velléités humaines. Dieu sait en tenir compte, mais aussi corriger. Il sait corriger les effets avec une parfaite objective et équité. Les velléités humaines, il sait les corriger tout en tenant compte. Et tout ce qu'il fait est tempéré par sa bienveillance aussi. Alors Dieu veille à faire concourir, on aime bien ce verset, toutes choses au bien de ceux qu'il aime, en vue de la gloire qu'il leur réserve, Romains 8, 28 et suivant, même la mort. Mais il faut confesser aussi, il faut confesser cela sans jamais pour autant verser dans le simplisme du Candide, de Voltaire. Il ne faut jamais nier la réalité du mal, dans toute son effrayante ampleur. Et la Bible fait les deux. Elle n'évacue pas la réalité du mal dans son effrayante ampleur. Elle ne fait pas preuve de simplisme, mais elle affirme aussi que Dieu règne. Et puis Dieu est bon. C'est une des manifestations constantes de toute la Bible. Louez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. On trouve ça plusieurs reprises dans les psaumes, le psaume 118 par exemple. C'était repris en Israël. Et on chantait cela, et on le reprenait dans le temple. Alors il a été bon pour nous dans le passé. Dieu est bon, il a été bon pour nous dans le passé. Il l'est encore aujourd'hui, et il le sera demain. C'est pourquoi nous ne manquons pas de le louer pour sa bonté, d'être reconnaissants pour toutes les bontés dont nous avons pu bénéficier. Nous sommes aujourd'hui, nous pouvons être aujourd'hui, par exemple, privés de la communion avec une personne qui nous était chère. Mais n'oublions pas de remercier Dieu de nous avoir permis de jouir de cette communion pendant tant d'années. Ça ne va pas de soi. Nous pouvons par exemple avoir perdu un objet ou autre chose, un lieu, une amitié, même un travail. Nous pouvons dire merci Seigneur de me l'avoir accordé pendant si longtemps. Ce n'était pas évident que j'ai ça pendant si longtemps. Pensons à tous ceux qui n'ont pas eu ce privilège. Ne considérons pas nos privilèges comme indus. Et donc on le considérait comme une injustice quand ça nous est enlevé. Dieu a été bon envers nous, il nous a comblés pendant un temps. Ne soyons pas ingrats, disons-lui merci pour ce que nous avons reçu. Dieu reste bon dans le présent et il le sera encore dans l'avenir. Et puis, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que l'épreuve est notre amie. Ça, ce n'est pas la mode non plus de dire ça. Mais l'épreuve est une amie qui nous veut du bien. Voilà, ça fait rêve. C'est une expression qu'on entend. Mais c'est vrai, l'épreuve est une amie qui nous veut du bien, une éducatrice attentionnée, efficace. Elle n'est pas bonne en elle-même, mais le but qui est poursuivi par Dieu est bon. Et donc la souffrance n'a pas été épargnée, n'a été épargnée plutôt à aucun homme de Dieu dans la Bible. Pensons à Joseph dans l'Ancien Testament, et nous pensons à Moïse, nous pensons à Élie, nous pensons à Jérémie. Pensons à Daniel et bien d'autres, bien sûr. Nous pensons bien sûr au Seigneur Jésus. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il fut élevé à la perfection par la souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux 2, 10, 5 et 5, 8. Alors sur le plan de la vie intérieure, l'épreuve nous apprend à réorienter nos affections vers l'essentiel. Elle valorise ce que nous avons perdu. Ce n'est pas une bagatelle dont la perte ne nous fait ni chaud ni froid. Et puis, elle nous oblige à reconsidérer notre vie sous l'angle de l'obéissance à Dieu. Nous apprenons les choses, nous aussi, par les choses qui nous font souffrir. Nous apprenons l'obéissance, je veux dire, par les choses qui nous font souffrir. Et puis là aussi, nous reconsidérons les choses sous l'angle de la pensée de Dieu. Et donc nous aussi, comme Jésus, nous apprenons l'obéissance par les choses que nous avons souffert dans ce domaine également. Les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous aide. Ce sont les pensées de Dieu qui sont justes, et non celles véhiculées par notre propre cœur ou par le monde ambiant. Les vérités, soi-disant vérités, assénées par le monde ambiant qui nous entoure. Lorsqu'une personne est décédée, on nous dit « Elle aurait encore pu jouir de tant d'années de vie. » Quel dommage qu'elle n'ait pas pu voir ceci ou celle-là. Combien elle aurait eu plaisir de vivre telle ou telle chose. Évidemment. Mais on ne pense pas à toutes les épreuves qu'elle aurait encourues aussi en vivant plus longtemps. Bon. Et peut-être des occasions de chute, on ne sait pas. Mais Dieu a dit au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans la présence de Dieu. Luc 23, 43. Et donc, ça nous rappelle une chose importante, être avec Jésus dans la présence de Dieu, dans le paradis, goûter déjà une grande partie de la joie éternelle, de cette joie qui sera la nôtre, n'est-ce pas meilleur que tout ce que le monde et que le temps présent peut nous offrir? En tout cas, il faut réfléchir dans cette optique. N'est-ce pas une promotion extraordinaire que d'être appelé auprès de Dieu? N'est-ce pas la meilleure part? Et dans nos anciens, quand j'étais jeune, on rappelait ça. Quand quelqu'un, un chrétien dévoué, mourait, on disait que c'était une promotion pour la gloire. Il était promu à la gloire céleste. Et c'est une promotion, quelque part. Alors, pour les gens aujourd'hui, l'essentiel, c'est la santé. On va le répéter encore au début de l'année. Et donc, c'est vrai que Dieu peut nous apprendre, dans ce contexte, grâce à la maladie, grâce à l'épreuve, il peut nous apprendre des vérités plus précieuses que ça. Et au moment d'une perte, imprégnons-nous des pensées de Dieu par une lecture renouvelée de la parole de Dieu, afin de contrecarrer l'effet destructeur des conceptions d'un monde sans Dieu. Et puis l'essentiel nous reste. On a touché un mot tout à l'heure. Ce qui nous aide dans ces cas-là, c'est l'essentiel nous reste. L'essentiel, c'est ce qui demeure. L'essentiel, c'est ce qu'aucune perte ne peut affecter. L'essentiel, c'est d'abord l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On a rappelé ces versets cette semaine, Romains 8, 38, 39. Ni la mort, ni la vie. Il y a 10 choses dont parle l'apôtre Paul. 10, c'est vraiment pour dire une totalité. Donc, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, ça veut dire. Et donc, l'essentiel, c'est aussi notre communion avec Dieu par Jésus-Christ, notre médiateur, notre intermédiaire. L'épreuve peut et veut parfois nous amener nous amener à resserrer cette communion que la vie heureuse fait parfois apparaître comme moins nécessaire, moins impérieuse. Et puis l'essentiel, c'est notre vocation céleste en Jésus-Christ, notre vocation terrestre en lui, c'est-à-dire la tâche qu'il nous a confiée pour l'avancement de son règne et pour sa gloire. L'essentiel, c'est de s'inquiéter des moyens de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 32, c'est dans un autre contexte, mais c'est vrai. L'essentiel, c'est d'accomplir sa volonté jour après jour. Voilà l'essentiel. L'essentiel nous reste. Alors, comment aujourd'hui, dans ma situation d'aujourd'hui, puis-je plaire au Seigneur? Voilà la bonne question qu'on peut se poser. Peut-être que l'épreuve nous permet de mieux accomplir notre vocation. Les épreuves que nous subissons aussi peuvent nous rendre plus sensibles aux autres. Et nous avons plus d'expérience pour leur transmettre les consolations de Dieu que nous avons reçues nous-mêmes, que nous avons expérimentées nous-mêmes dans des circonstances difficiles. C'est ce que Paul dit en 2 Corinthiens 1. Alors, ce qui est bon de rappeler aussi, c'est que le meilleur est devant nous. J'aime bien cette expression. Des fois, je la dis un peu rapidement, ça peut faire sourire, mais c'est vrai, c'est fondamentalement vrai pour le chrétien. Une perte peut se traduire par une régression ou par une progression. Mais c'est pas, l'un ou l'autre ne sont pas irrémédiables. On n'est pas forcé de rester dans la régression. Une perte peut se traduire en une progression. Et donc, celui qui a subi une perte est tenté de s'accrocher au passé. Voilà un thème important aussi. On est tenté, dans ces cas-là, de ressasser les souvenirs du temps où tout était si bien. On oublie que tout n'était pas si bien. On est tenté d'idéaliser ce passé pour continuer à y vivre par la pensée, par les sentiments. Et l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers la vocation céleste qui m'est impartie en Jésus-Christ. » Alors c'est quand même une bonne optique pour le chrétien. Si notre passé était conforme à la volonté de Dieu, nous n'avons pas besoin de l'oublier, non. Nous en rendons grâce à Dieu, mais nous, en le remettant à sa place. C'est-à-dire, sa place, c'est le passé. Voilà. Et donc, on peut rendre grâce à Dieu, on ne l'oublie pas, mais on le laisse à sa place, le passé. Et pour aujourd'hui et pour demain, Dieu a autre chose en vue pour nous. Et ce serait un piège de rester dans le passé, pour que Dieu est le Dieu du présent. Et il a un avenir pour nous, il nous aide par son esprit à tourner la page de la bonne façon, à nous détacher des bénédictions passées pour nous porter vers ce qui est en avant et pour nous porter vers d'autres bénédictions. C'est la vie, la vraie vie est devant nous. Et la mort, comme toutes les pertes qui nous y préparent, est le moyen d'y accéder. Et là, nous arrivons à un autre point. La perte permet d'accéder à la vie. C'est toujours par des pertes, c'est un autre thème important, je crois, dans la Bible. C'est toujours par des pertes, par des frustrations, c'est-à-dire par des petites morts, que nous accédons à des degrés supérieurs de vie, que nous progressons dans la vie. Si nous réfléchissons à la manière dont nous sommes devenus adultes, si nous sommes adultes, nous constatons que c'est au travers de frustrations, de pertes successives, que nous avons été rendus capables d'assumer notre rôle d'adulte dans la société parmi les nôtres. D'abord, il y a eu la naissance. Ceux qui ont assisté à une naissance, parce que la leur, ils ont oublié. Et les naissances, c'est douloureux. C'est vraiment un arrachement terrible. On est si bien dans le ventre de sa mère. Et c'est une douleur. Et pourtant, qui regretterait cette douleur? Ça nous a permis d'accéder à la vie. Plus tard, il a fallu quitter le foyer maternel pour aller à l'école. L'entrée en CP, l'entrée en 6e et compagnie. Puis changer de classe, changer de maître, de maîtresse, perdre ses camarades, etc. Les déménagements, et puis un jour quitter père et mère pour s'attacher à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et formeront une nouvelle unité de vie. Et cette condition première, c'est la condition première d'ailleurs de la réussite d'un mariage. Et c'est aussi valable dans beaucoup de domaines. La croissance se fait par des morts et des résurrections successives. La vie spirituelle ne grandit pas comme grandit une pomme de terre, j'avais entendu ça il y a quelques années, mais elle grandit par morts et résurrections successives. Et donc, ça se fait par morts et résurrections successives à des attachements sécurisants pour permettre de nouveaux attachements. Chaque mort est un attachement engendre une souffrance momentanée. Mais refuser de quitter, c'est refuser de croître. Et donc, le grand choix de la vie n'y échappe pas. Le grand choix de la vie, c'est la conversion. Et ça obéit à la même règle. Il faut quitter, il faut se détacher d'une certaine façon de penser, de vivre sans Dieu, et mourir aussi à un certain genre de vie, indépendant de Dieu, loin sans Dieu, pour s'attacher, avec toutes les conséquences que ça amène, pour s'attacher au Christ. là aussi, le prendre comme sauveur, comme seigneur de sa vie, hein, prendre sa croix, renoncer à soi-même, à son ego, à sa façon égoïste et orgueilleuse de vivre, hein, pour se obéir au Seigneur, hein, et trouver là la libération de toute sa vie. C'est bien ce que représente le baptême, c'est une mort avant la résurrection avec le Christ. La mort est la condition préalable de la vie nouvelle. Cette loi se vérifie dans la nature. Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Il n'a pas la vie, donc. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il a la vie. C'est ce que Jésus dit en Jean 12, 24. Et il a dit ça en préparation de sa propre mort. La loi se vérifie sur le plan spirituel. Pas de vie nouvelle sans mort au péché avec le Christ. Et c'est vrai aussi donc pour la vie éternelle. Il est encore vrai, c'est encore vrai pour l'entrée dans la vie éternelle. À moins que le Seigneur revienne à nous prendre, nous irons vers lui dans les cieux, mais nous serons transformés en un instant, mais à moins que si ça n'arrive pas de notre vivant, il nous faudra passer par la mort pour accéder à la vie. Alors, Jésus avait déjà illustré cette loi par l'image du vigneron qui taille sa vigne. Je le rappelle pour mémoire, tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Afin, c'est toujours une opération douloureuse pour la vigne, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quelle perspective ! Jean 15, 2. L'émondage est une opération douloureuse, mais nécessaire pour la vigne. Alors, quelle que soit la perte que nous avons subie, ces certitudes que nous apporte la parole de Dieu nous aideront à mieux l'accepter, à mieux la surmonter. Et si demain, vous êtes confronté à une tempête, à une de ces tempêtes extraordinaires qui bouleversent votre existence, eh bien, ces certitudes vous aideront à traverser cette tempête sans sombrer, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il suffit, j'aime bien cette pensée, il suffit de changer une lettre dans le mot « perte » pour en faire tout autre chose. Alors laquelle ? C'est la lettre « e ». Si vous changez la lettre « e » par la lettre « o », le mot « perte » devient « porte ». Et je trouve que c'est des petites choses comme ça qui nous aident. Et il suffit d'une lettre pour changer le mot « perte » et en faire une porte. Donc beaucoup parmi nous en ont fait l'expérience. Et on peut partager sur ce sujet. Alors, si on revient au texte, son père l'appela Benjamin, Benjamin. Donc, Benoni, fils de ma douleur, fils de ma tristesse, fils de mon deuil, est changé en Benjamin, fils de ma droite. Et donc, la droite, c'est ce qui est le plus important. C'est, en tout cas, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Et donc, Jacob semble avoir compris tout, avoir compris quelque chose qui va même au-delà. Mais il a compris quelque chose d'important. Sous le feu d'une inspiration de Dieu, il proclame à l'instant le plus tragique de sa longue saison d'amour avec Rachel, il proclame le prénom de son dernier fils qui sera Benjamin. Jacob voyait la miséricorde manifestée dans la naissance de l'enfant. Sa foi triomphe, comme on l'a dit au début, dans la fidélité de Dieu. Et Rachel est portée en terre à quelques pas de la route qui traverse et qui va à Rama et qui traverse le village d'Ephrata Bethléem. Ephrata veut dire fécondité, Bethléem, maison du pain, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, elle est quelque part dans la contrée, elle va rester dans la contrée de la fécondité, cette fécondité qu'elle avait tant espérée durant toute sa vie. Alors, plusieurs siècles après la naissance de Benjamin, le prophète Michée annoncera, on y reviendra dans une autre prédication, annoncera en Michée 5.1 qu'un événement d'ampleur mondiale va se produire dans cette petite bourgade où Rachel a quitté ce monde. Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les nombreuses bourgades de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera, gouvernera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Et parmi les nombreux successeurs de David et de Salomon sur le trône de Juda, beaucoup se montreront indignes de ce privilège de régner sur le peuple. Et ce peuple qui est appelé à servir Dieu. Et ce peuple sera finalement déporté, hein, suite aux annonces répétées de Jérémie. Hein, il sera déporté en 586 avant notre ère, par les Babyloniens. Et Jérémie pourra dire, « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Il décrit là la douleur de la défaite, de l'exil. Mais il ajoute, dans Jérémie, il promet un rétablissement. Après que tout le peuple aura été détruit jusqu'aux plus petits enfants, il y aura un rétablissement. Et il y aura aussi la venue du Messie. Il y aura le Messie qui va donner de nouveaux cœurs, une nouvelle vie. Donc toutes ces prophéties seront parachevées dans le cours de l'histoire par la venue du Christ, le Messie. Le descendant de David, dans la lignée de Judas, dans la lignée donc de Jacob et de Judas, qui devra naître à Bethléem, Ephrata. Des siècles plus tard, une jeune femme donnera naissance à un autre bébé à Bethléem, et cet enfant sera connu comme fils de la droite de Dieu. Et en Matthieu 2, 18, Matthieu avertit qu'il y a une tuerie énorme. Hérode cherche à tuer tous les enfants de Bethléem, de l'âge du Christ, mais que cette tuerie épouvantable exécutée par Hérode n'empêchera pas que quelques temps après, le Christ, Jésus, se montrera vraiment le rédempteur du peuple. Et de même que l'exil à Babylone n'a pas empêché Dieu de continuer ses bons plans envers son peuple, de le ramener et d'envoyer son Messie, de même cette tuerie n'empêchera pas le Christ d'annoncer la bonne nouvelle, de mourir pour nous, de ressusciter, d'accomplir l'œuvre du salut prévue. Donc, tous ces messages, toutes ces prophéties ont été des messages importants, la nouvelle du salut qui approchait. Et j'aimerais encore insister sur le fait que ce prénom donné à leur dernier fils par Rachel et Jacob est vraiment un acte prophétique, préfigure, bien sûr, l'ascension du Christ, Benjamin, fils de ma droite, Jésus est monté à la droite du Père, il règne dans la majesté divine, Éphésiens 1, Romains 8, etc. Mais Jésus a été aussi Ben-Oni, fils de ma douleur. Il a été le fils de la douleur. Ça s'applique à toutes ces souffrances, l'homme de douleur habitué à la souffrance, Ésaïe 53. Mais il a été élevé à la droite de Dieu. Et il a remporté la grande victoire prévue par le Seigneur sur le péché, la mort, l'enfer et toutes les conséquences du mal. Donc c'est une révélation dont Jacob et Rachel ne peuvent pénétrer tout le sens. Et cette révélation leur a été dispensée comme à leur insu, presque. Comme s'ils étaient transportés par une vague prophétique venue d'en haut. Et qui était là pour nous aussi. Et pour encourager ceux qui étaient autour d'eux. Et puis d'autres promesses jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes au bénéfice de toutes ces promesses que nous voyons encore plus clairement et qui nous aident à attendre le dernier accomplissement de l'histoire du monde avec la venue du Christ. Alors, nous concluons. Dieu veut que nous soyons comme Jacob, c'est-à-dire que nous nous souvenions du Fils de la droite de Dieu. Dans toutes nos douleurs, nos difficultés, les choses de la vie qui ne sont pas claires, nous devons lever les yeux vers le trône de grâce où se trouve le Seigneur. Couronné d'honneur et de gloire, comme dit l'Épître aux Hébreux. Nous le voyons par la foi, déjà assis à la droite de la majesté divine, comme gouverneur et du monde entier. Et donc, nous aussi, nous sommes transportés, non pas par une vague prophétique, mais par la parole de Dieu qui dirige nos regards. Comme lui aussi, nous traversons l'épreuve de la mort. Que nous puissions vivre, être une église composée de chrétiens aussi, qui se repentent chaque jour, qui renoncent à leur vie centrée sur eux-mêmes, avec leurs propres buts, leurs propres règles, et que nous puissions mourir dans ce sens à nous-mêmes. Ce texte aussi va dans ce sens. Que nous puissions être une Église qui démontre par sa foi, par son amour, par son espérance, par son adoration, par sa vie, une joie profonde. La joie de se savoir aimé, la joie de savoir que Dieu règne, la joie de se savoir dans les mains d'un plus grand que nous, la joie de savoir que Dieu a un plan pour nous, qu'il le mènera au bout. Et puis que nous soyons une assemblée qui par sa foi, rend le ciel visible à nos contemporains. Comme quelque part, Jacob a rendu le ciel visible par cette parole, fils de ma droite, à ses enfants qui étaient là, que nous puissions par nos réactions de foi, par notre engagement profond, donner une vision en tout cas, un petit soupçon qu'il y a autre chose derrière, derrière les réalités, que nous puissions rendre le ciel visible à nos contemporains. Amen.